Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire, des cours d'histoire un peu spéciaux parce que nous avons réalisé cette émission grâce à un partenariat avec l'association Outre-mer Développement. 4 cours d'histoire vont être enregistrés sur le thème de la colonisation. La colonisation est au programme de collège, mais aussi de lycée. Et dans le cadre de cette étude sur la colonisation, nous allons consacrer notamment 2 émissions, voire 3 émissions, à la question de l'esclavage entre mythe et réalité. La toute première émission, j'ai souhaité la consacrer à l'histoire d'une conquête, une conquête un peu spécifique. La colonisation touche le monde entier, bien évidemment, mais nous allons voir la colonisation française et notamment le cas de la formation de ce que l'on appelle des îles à sucre. Frédéric Régent, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1, Panthéon Sorbonne. Vous êtes spécialiste de l'histoire coloniale. Vous avez déjà écrit de nombreux ouvrages, La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions, 1620-1848. C'est un livre qui est sorti chez Fayard et qui a été réédité en collection de poche chez Pluriel, et vous venez de publier chez Talandier Les Maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d'esclaves, 1635-1848. Alors, Frédéric Régent, l'idée coloniale est très souvent associée à l'époque des 19e et du 20e siècle. Or, cette idée coloniale date, on a tendance à l'oublier, de la fin du 15e et du début du 16e siècle. Première question, peut-on comparer le colonialisme contemporain, ceux du 19e, 20e, avec celui de l'époque moderne?
Alors, il y a effectivement des points communs, c'est-à-dire c'est la projection de colons, c'est-à-dire d'hommes pour exploiter des hommes et des territoires, donc ça c'est le point commun. Mais la très grande différence entre les deux colonisations et surtout du fait que une est une colonisation esclavagiste, c'est-à-dire que dans les modalités d'exploitation, on pousse l'exploitation des hommes à l'extrême, parce que l'esclavage est l'exploitation extrême des hommes, et la seconde, au contraire, sous un couvert, un vernis de volonté de civiliser des peuples qui seraient à civiliser, il n'y a pas cette dimension esclavagiste. Au contraire, d'ailleurs, un des arguments, c'est de dire on va abolir l'esclavage au fin fond de l'Afrique où il perdure encore. Donc voilà, il y a des leviers qui sont les mêmes. Maintenant, dans les buts et les moyens qui sont employés, il y a quand même des différences entre ces deux colonisations.
Alors, la colonisation française, écrivez-vous, démarre fortuitement. C'est le terme que vous utilisez dans votre livre La France et ses esclaves. Elle est la conséquence des rivalités anglaises, espagnoles et hollandaises. Il n'y a pas de projet colonial à proprement parler à la fin du XVe siècle et au XVIe siècle. C'est d'abord le fruit de ces rivalités.
Oui, alors au départ, il y a quelques idées de colonisation, notamment par François Ier. Il est en rivalité avec Charles Quint, et puis il voit Charles Quint développer un empire en Amérique. Et donc François Ier indique, je ne sais pas quelles sont les clauses du testament d'Adam qui ont donné l'Amérique au roi d'Espagne. Et lui aussi, il estime qu'il a sa part, donc il envoie le Florentin Verrazzano, donc faire une campagne d'exploration. Donc il explore les côtes de Floride, il remonte pratiquement jusqu'au nord des actuels États-Unis. Mais finalement, ça reste des opérations sans lendemain. Il y a les guerres de religion qui arrivent, et puis finalement, après les guerres de religion, sous Richelieu, eh bien, à nouveau, Alors, ce sont plus des initiatives privées dans un premier temps, donc des armateurs, des capitaines de navires, qui sont au large des Antilles, qui mènent des campagnes saisonnières d'exploitation du tabac, qui est vraiment le produit venant de l'Amérique intertropicale qui est à la mode à cette époque-là. Et finalement, Richelieu va inciter à la création de compagnies. Alors ces compagnies, ce sont des compagnies d'associés.
La compagnie de Saint-Christophe, puis voilà. Après la compagnie des îles.
Voilà, et puis aussi la compagnie des Indes orientales, enfin toute une série de projets. Enfin, ça fait un peu penser aux start-up, c'est-à-dire on lance plein de d'idées et puis on voit celle qui va finir par réussir. Et donc au départ, donc la colonisation de Saint-Christophe commence au début des années 1620, et en 1626, donc une compagnie est créée. Donc ce sont des négociants qui sont actionnaires, mais qui sont tous pour la plupart proches de Richelieu, donc il y a quand même un peu une intervention de l'État. Richelieu est à l'époque le principal ministre de Louis XIII, et le but, c'est de cultiver du tabac, donc à Saint-Christophe, et puis de s'étendre ensuite sur les autres îles.
Il y a un personnage central, alors vous citez le rôle capital de Richelieu dans votre ouvrage, dans cette conquête coloniale, mais il y a un autre personnage central qui lui est sur le terrain, c'est Pierre Belin d'Estanbuc.
Oui, alors c'est un capitaine de navire normand qui à l'occasion de ses voyages, vous voyez, sont des gens qui font à la fois du commerce, mais aussi qui n'hésitent pas à capturer un navire espagnol lorsqu'ils le peuvent. Et donc, il relâche à Saint-Christophe et il se rend compte qu'il est possible d'y cultiver du tabac. Et donc, il fait tout ensuite pour obtenir les autorisations pour coloniser cette île.
Quand est-ce que on date très précisément la première installation française ?
On peut pas la dater très précisément. On sait qu'en 1625, ils sont déjà là. Bon, on sait pas depuis combien de temps. Bon, ça a l'air quand même d'être de manière très récente, mais autour de 1625.
Mais ce n'est pas un... À vous entendre, ce n'est absolument pas un mouvement massif, des déplacements d'hommes. Ce sont vraiment des petites initiatives privées.
Oui, ce sont des petites initiatives... C'est de l'ordre de quelques centaines d'hommes par an, dans le cadre d'un système que l'on va appeler l'engagement. Donc, ce sont...
On ne parle pas de colonies à l'époque.
On parle pas. Si. Le terme est employé avec des références qui sont liées à la Grèce antique. Le terme était déjà employé. Et donc, dans ces établissements, on va privilégier tout d'abord une main-d'œuvre européenne. Donc ce sont des pauvres gens qui sont un peu ramassés dans les ports, donc on leur promet de belles choses, mais en gros, ils doivent travailler pendant 3 ans pour ceux qui leur payent le passage de la traversée de l'Atlantique, et puis au bout de ces 3 ans, ils deviennent libres, on leur donne une somme qui correspond à la traversée en sens inverse, donc des Antilles vers le Royaume de France, ou alors ils gardent cette somme et puis ils s'installent sur place.
Ça, c'est une découverte que j'ai faite en lisant votre livre, donc La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions. C'est que c'est quasiment un système de servage. Ce sont des gens qui sont au service d'une personne, qui ne sont pas libres, qui dépendent d'une autre personne, parce qu'ils ont une dette, et c'est la dette de leur voyage, de la traversée.
Exactement, c'est une forme de servage à durée déterminée, c'est-à-dire limitée à 3 ans, mais on est complètement dans le servage. Et dans les rapports d'ailleurs qui existent entre maître et ses serviteurs engagés, il y a, enfin, tous les témoignages écrits par les missionnaires s'étonnent de l'extrême violence avec laquelle ils sont traités. Le fouet, les chaînes, voire même des meurtres. Et à cela s'ajoutent donc des conditions de vie qui sont rendues très difficiles par le manque d'aliments.
Oui.
Les approvisionnements de la compagnie sont sont très mauvais. Donc, ces populations sont obligées de se nourrir sur place, mais,
oui.
mais il faut s'habituer à, voilà, à cultiver du manioc, à se nourrir des végétaux qui sont sur place. Et donc, il y a des famines épouvantables qui sont également décrites par les premiers chroniqueurs et qui déciment cette population.
Est-ce qu'on peut parler, du coup, d'une forme de, d'esclavage blanc?
Alors, non, employons les termes, voilà, c'est de la servitude.
C'est de la servitude.
Voilà, c'est de la servitude blanche, dans des conditions qui, d'ailleurs, c'est en quelque sorte un laboratoire de l'esclavage des Africains qui va suivre, parce que ces peines, donc les chaînes, le fouet, voilà, c'est quelque chose qui va être ensuite transposé pour les esclaves africains.
Mmh. 1628, Saint-Christophe, c'est la date, enfin vous datez précisément l'arrivée des premiers esclaves, c'est quelques dizaines.
Oui.
Or, le commerce, vous soulignez bien le fait que le commerce négrier reste illégal.
Alors, pour la France, il est illégal. En 1571, il y avait un capitaine de navire... Donc il y avait débarqué des esclaves à Bordeaux, ils pensaient d'ailleurs les vendre, pratique qui se faisait au Portugal. Au Portugal, on estime que 200 000 à 400 000 esclaves africains ont été vendus dans les ports portugais, et notamment à Lisbonne. Donc, gros, suivant le modèle portugais, il a tenté la même chose à Bordeaux, et le Parlement de Bordeaux s'est saisi de cette affaire et a déclaré que il ne pouvait pas y avoir d'esclavage en France et a déclaré libre ses esclaves au nom d'une ancienne loi qui datait de 1315 et qui déclarait qu'il n'y avait pas d'esclavage sur le sol français. Donc voilà, la législation, c'est que l'esclavage est établi au sein du Royaume de France, mais ces colonies naissantes vont être considérées comme étant quelque chose d'extérieur au Royaume de France, notamment en ce qui concerne la législation.
Alors, nous allons revenir dans les deux prochaines émissions sur la vie de ces esclaves, sur la place des maîtres, le rôle des maîtres, mais toujours à la lecture de votre ouvrage, on voit que c'est un monde qui est à la fois confronté aux relations avec les autochtones, comment se passe-t-elle, mais aussi aux dangers que peuvent constituer les puissants ennemis que sont les autres puissances coloniales.
Oui. Alors, les relations avec les autochtones, donc ce sont les Amérindiens qu'on appelle Caraïbes. Donc, ce sont des relations conflictuelles. Donc, les premiers colons et leurs engagés sont constamment sous la menace des attaques des Caraïbes, qui sont des peuples semi-nomades. C'est-à-dire, ils ont des jardins un peu sur toutes les petites Antilles. Et puis, un moment, ils sont en Guadeloupe, l'autre moment, ils sont en Martinique. Un autre, ils sont en Dominique, et surtout, ils sont capables de concentrer toutes leurs forces, d'unir tous les groupes de Caraïbes pour lancer des expéditions. C'est vrai que les cinq premières années de la colonisation française sont des années particulièrement difficiles. Et puis finalement, donc, les Français s'installent. Et en 1660, il va y avoir une répartition des îles entre Français, Anglais et Caraïbes. Donc, des îles sont déclarées anglaises, comme la Barbade, comme Nevis, Antigua, Montserrat. Des îles sont déclarées françaises, comme la Guadeloupe, la Martinique, et la partie française de Saint-Christophe, qui est partagée avec les Anglais.
Et il y a des îles qui appartiennent aux autochtones ou...
Oui, il y a quatre îles qui sont laissées aux autochtones, mais au XVIIIe siècle, les Français et les Anglais vont commencer à coloniser et ne plus respecter les traités qui avaient été signés en 1660.
Mais c'est pour dire que cette entreprise coloniale apparaît comme une œuvre fragile, comme une œuvre qui peut être remise en cause, qui est ébranlée à la fois par des forces internes, mais aussi des forces externes.
Oui, oui, complètement. D'ailleurs, on a toute une série d'exemples de tentatives coloniales au début des années 1600, que ce soit en Guyane, que ce soit en Floride, que ce soit même au Brésil, qui ont échoué. Et par exemple en 1628, la colonie de Saint-Christophe est attaquée par les Espagnols et Et donc finalement, les habitants de Saint-Christophe reviennent, mais ils étaient à deux doigts de ne pas revenir. Donc effectivement, ce sont des établissements qui sont au départ extrêmement fragile.
Une dernière question, Frédéric Régent, nous évoquions le tabac et l'importance du tabac dès le départ. Il va y avoir une sorte de crise de surproduction du tabac et l'économie va être dominée par un nouvel élément qui est le sucre. Et vous parlez dans votre ouvrage de révolution sucrière. On va pas la comparer avec la révolution d'Internet, mais en tous les cas, pour ces îles, c'est une véritable révolution, le développement du commerce du sucre.
Oui, je pense même que c'est une révolution pour le capitalisme tout court. Hein. Donc, revenons juste une minute sur le tabac. Donc, le tabac est vraiment la plante la plus adaptée à ce début de colonisation. Ça nécessite peu de main d'œuvre. C'est-à-dire que vous ayez un serviteur à votre service ou 10. Bon, si vous en avez 10, vous produisez 10 fois plus. Mais en ayant un, vous pouvez quand même produire. Par contre, pour le sucre, il vous faut tout de suite au moins 15 personnes à votre service. Et c'est donc une plante qui rapporte presque immédiatement. Voilà, au bout de 6-7 mois, vous pouvez vendre vos feuilles de tabac, qui nécessitent peu d'installations de transformation, juste un hangar de séchage. Et donc, le début de la colonisation va vraiment être marqué par cela, par le tabac et par les engagés européens. Ensuite, donc, il va y avoir une crise du tabac qui est liée à la surproduction avec le développement notamment du tabac dans les 13 colonies, notamment en Virginie, au Maryland, en Caroline du Nord. Et finalement, la plante qui va triompher va être la canne à sucre. Les Français vont arriver à dominer donc la production de sucre grâce notamment aux Hollandais. Donc en 1654, les Hollandais sont chassés du Brésil et certains d'entre eux s'installent en Guadeloupe et vont transmettre leur savoir-faire, notamment dans la production de sucre. Voilà. Et le grand changement, c'est que le sucre a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Il y a besoin aussi d'infrastructures, d'un moulin, d'une sucrerie. Donc il y a besoin de beaucoup d'investissements. Et c'est là que l'on peut parler de révolution sucrière, parce qu'il y a à la fois une révolution au niveau des modalités de travail. Hein, on les appelle à cette époque-là des manufactures à sucre. On a une concentration de main-d'œuvre, on a une concentration aussi de l'appareil productif, et puis nécessité d'importants capitaux. Et puis également, c'est une denrée d'exportation, donc avec des circuits commerciaux qui sont internationaux.
Voilà. Alors, comment vivaient ces hommes? Quelle était la place des esclaves dans cette société? C'est ce que nous verrons dans les deux prochaines émissions avec vous, Frédéric Régent. Merci beaucoup.
Merci.
D'être venu au micro de Storia Voce. La France et ses esclaves aux éditions plurielles, une édition de poche, et vous venez de publier aux éditions Talendier, Les Maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d'esclaves, 1635-1800. 48. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir. Pour ce faire, rendez-vous sur la page Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil de notre site internet. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau cours d'histoire.